histoire particulière. Selon le dictionnaire de droit international pénal en 2015, un criminel de guerre est une personne qui a commis un crime de guerre et dont la responsabilité pénale individuelle se voit dès lors engagée. Parmi les chefs d'accusation retenus, l'homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances, de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, l'appropriation de biens non justifiés. La construction des 8 émissions d'une histoire particulière que vous allez écouter le samedi à 17h suit le même procédé. D'abord les faits. Ils sont souvent violents, difficiles d'écoute, mais nécessaires. Puis vient la personne elle-même. Qui est-elle? D'où vient-elle? Quel est son parcours? Comment a-t-elle basculé dans la banalité du mal? Et pour terminer, le récit de sa traque, sa chute, souvent sa mort. Chaque portrait démontre que quelles que soient les époques et les guerres, hélas, l'histoire se répète.
Attention, certains propos peuvent heurter les oreilles sensibles. Archives du 11 avril 1945.
Voici Buchenwald. C'est un nom qui veut dire poétiquement bois de hêtre. C'est de ce bois qu'on fait les potences en Allemagne. La commission d'enquête nommée par le Parlement britannique a visité ce camp lors de sa libération. Elle y a trouvé les traces d'un crime immense. Étalé sur 200 hectares, Buchenwald comptait 65 baraques destinées à contenir 18 000 détenus. On y en entassa jusqu'à 86 000. Dans cet enfer que n'avait pas prévu Dante, 5000 détenus mouraient chaque mois, un toutes les 10 minutes. L'industrie de mort fonctionnait à plein. On mourait sous la schlague, on mourait pendu, on mourait assommé.
Ils écorchent la chaîne de Buchenwald, Alain Levkovitch, Rafik Zénine.
La femme du chef de camp aimait les tatouages originaux. Malheur à celui qui en portait. Il était abattu aussitôt et sa peau tannée servait à faire un nouvel abat-jour.
La femme du chef de camp dont nous parle le speaker, décryptant les images tournées par les libérateurs américains, n'est autre qu'Ilse Koch, la commandeuse comme on l'appelle, la femme de monsieur le commandant le colonel SS, Karl Otto Koch, le père de ses 3 enfants. Lors de son procès qui se déroule du 11 avril au 14 août 1947 dans l'ancien camp de concentration de Dachau, d'innombrables rescapés défilent à la barre dressant le portrait d'une femme sadique, perverse, libertine, nymphomane avide de conquête et fétichiste ayant le pouvoir de vie ou de mort sur quiconque osait simplement poser son regard sur elle. Un par un, ils viennent raconter l'impensable d'une réalité trouble, faite de rumeurs, de on-dit, d'approximations et de certitudes aléatoires. On les interroge, on les contre-interroge, tant les récits semblent imparfaits, comme si pour l'accusation, la défense et les juges, quelque chose ne collait pas. Originaire de Yougoslavie, Sedomir Obignoni est déporté à Buchenwald en juin 1944. Il a à peine 15 ans, il se souvient.
Concernant les châtiments infligés aux prisonniers, si quand un SS passe, tu n'as pas enlevé ta casquette, si tu ne fixes pas le sol, il avait le droit de te frapper ou tout autre châtiment qui pouvait lui passer par la tête. Il y avait une usine de munitions notamment. Tout acte de sabotage était sévèrement puni. Comment cela se passait? Il y avait une table où on allongeait le prisonnier qui était attaché, et 2 soldats le frappaient. Cela se passait en public, les dimanches. Pour toute tentative d'évasion, pendaison sur la place d'appel, en public.
Y avait-il des gardes sadiques ou psychopathes parmi le personnel allemand qui tourmentait les prisonniers?
Une était particulièrement connue. Je ne sais pas si elle était la femme ou l'amante d'un commandant du camp. C'était une Allemande. Dans un premier temps, elle se promenait dans le camp. Une partie du camp était réservée aux prisonniers de guerre russes. Nous étions séparés d'eux. Si elle repérait un prisonnier dont le tatouage lui plaisait, il était tué et sa peau transformée par exemple en portefeuille, en lustre, etc. Elle sélectionnait les prisonniers.
Avez-vous assisté à ces sélections ?
Non, mais j'ai vu certains des objets qui ont été fabriqués.
Vous avez mentionné une personne particulièrement sadique qui était présente dans le camp, une femme ou une amante de commandant. Est-ce que vous connaissiez son nom du temps où vous étiez fait prisonnier ?
Cela se savait. Personnellement, je ne savais pas. Je l'ai su plus tard. Elle s'appelait Ilse Koch.
Pendant près de 4 ans, de janvier 1939 à juin 1943, Ludwig Gehm va être interné à Buchenwald. Il va y travailler comme serrurier, puis va être affecté au bureau de la construction du camp. Il se présente devant la cour comme témoin de l'accusation. Solomon Surowitz, procureur adjoint, commence l'interrogatoire.
Monsieur Gehm, avez-vous eu l'occasion d'entrer en contact avec Ilse Koch ?
Oui, j'ai beaucoup travaillé dans la maison des Koch.
Monsieur Gehm, vous souvenez-vous d'un incident qui a eu lieu pendant l'été 1942, impliquant Madame Koch et un prisonnier ?
Oui.
Racontez à la cour, s'il vous plaît.
Ce jour-là, j'allais en direction de la maison des commandants pour y faire une réparation. Je marchais dans la rue en direction du garage pour les troupes. Devant moi marchaient plusieurs juifs et Madame Koch s'est dirigée vers nous. Un juif est passé devant elle et deux ou trois suivaient. Alors j'ai vu Madame Koch frapper un des juifs au visage avec un bâton ou une cravache. Le juif se pencha et Madame Koch l'a frappé deux ou trois fois encore sur son corps.
À quelle distance de Madame Koch et des prisonniers étiez-vous quand cet incident a eu lieu ?
Peut-être 30 mètres.
Monsieur Gehm, pouvez-vous pointer et montrer à la cour sur le tableau mural l'endroit exact où cet incident a eu lieu ?
L'incident a eu lieu ici, juste avant les baraquements.
Savez-vous pourquoi elle a frappé ce prisonnier ?
Non.
Connaissez-vous la nationalité de ces prisonniers ?
Je ne pouvais pas savoir ça.
Eugène Cogon, journaliste et sociologue allemand, opposant au Parti National Socialiste, est arrêté et détenu 6 ans à Buchenwald, où il finit par devenir le secrétaire particulier du docteur Dink Schuller. Une fois de plus, Solomon Surowitz, procureur adjoint, est à la manœuvre.
Docteur, pendant que vous étiez à Buchenwald, avez-vous eu l'occasion de connaître une personne du nom d'Ilse Koch ?
Ilse Koch était connue pour être la commandeuse du camp pendant l'ère du commandant Koch. Aux yeux des prisonniers, elle était aussi dangereuse que Koch. Bien sûr, les prisonniers n'avaient pas autant de contact avec elle qu'avec Koch lui-même.
Quel contact y avait-il entre les prisonniers et Ilse Koch ?
Des prisonniers travaillaient chez les Koch. À part ça, des prisonniers qui travaillaient étaient dénoncés par la commandeuse à chaque fois qu'elle montait à cheval ou se baladait à pied. Des prisonniers étaient envoyés au bunker à chaque fois qu'ils avaient un différend avec la commandeuse.
Ces prisonniers envoyés au bunker, les revoyait-on ?
J'ai entendu dire, par des camarades, que ceux qui étaient dénoncés par la commandeuse ne réapparaissaient pas. Ils disparaissaient, ils étaient tués.
Seriez-vous capable de reconnaître Ilse Koch si elle était dans la salle d'audience aujourd'hui ?
Entre-temps, j'ai vu des photos d'Ilse Koch dans les journaux. Dans le camp, je l'ai vue seulement de loin. Je pourrais donc la reconnaître, mais pas de mon expérience dans le camp.
Puis vient le tour de Joseph Lowenstein. Solomon Surowitz reprend.
Monsieur Lowenstein, pendant que vous étiez à Buchenwald, avez-vous connu une personne du nom d'Ilse Koch ?
Oui, j'ai bien connu la commandeuse Koch.
Décrivez à la cour tout incident impliquant Ilse Koch dont vous vous souvenez.
En 1942, je finissais des travaux dans la soi-disant nommée Maison Koch et un camarade appelé Sommer était présent avec moi. Cet homme, Sommer, un Autrichien qui a de la famille à Vienne, était un homme âgé et bien sûr il ne pouvait pas travailler à la même cadence qu'un homme plus jeune. Madame Koch, qui se tenait près de la fenêtre, a appelé le commandant Koch qui marchait dans le jardin et a dit « Regarde ce sale porc juif, trop feignant pour travailler, je ne veux plus le voir ici. Tout ce qu'il fait c'est te fixer de toute façon. Je ne pouvais rien faire. C'est vrai que j'étais en charge de la supervision des prisonniers » et que j'ai essayé de transférer Sommer dans un autre détachement. Cor a demandé au prisonnier de s'approcher. Il l'a frappé sans pitié avec une cravache et lui a mis des coups de pied. Tout cela a eu lieu en présence de Madame Cor.
Avez-vous vu cela de vos propres yeux, Monsieur Lowenstein ?
Oui, c'était mon détachement, je travaillais là. J'ai attrapé le prisonnier, je l'ai relevé et lui ai crié « S'il te plaît, va vite à la carrière », tout en l'accompagnant pour éviter que son numéro soit noté. J'ai réussi à amener le prisonnier loin de la vue du commandant et à l'empêcher d'avoir un rapport fait sur lui.
Monsieur Lowenstein, pouvez-vous nous dire de nouveau à quelle date cela a eu lieu ?
Au printemps 1941.
Vous souvenez-vous d'autres incidents impliquant la commandeuse Cor ?
Oui, je me souviens d'un autre incident. Cela devait être en avril ou mai 1941. Nous travaillions à côté de l'entrée principale des quartiers généraux et donc juste à côté du poste de garde principale. Nous devions installer une nouvelle décoration alpine. Nous devions emporter la terre, nous devions porter des rochers et le sol pauvre loin de là pour pouvoir planter des végétaux. Parmi les prisonniers, un avait probablement la diarrhée.
Monsieur Lowenstein, qu'est-ce qui a causé cette diarrhée ?
La mauvaise nourriture, il n'y avait pas d'autre explication. Pendant ces années, des centaines et des milliers de prisonniers ont souffert de diarrhée et beaucoup d'entre eux sont morts. Ce jour-là, ce prisonnier s'est assis à côté des bois pour se soulager. J'ai vu Madame Cor arriver le long de la route principale, accompagnée de deux colonels SS dont je ne connais pas les noms.
Monsieur Lowenstein, pouvez-vous décrire brièvement ce qu'il s'est passé ?
Madame Cor a appelé le lieutenant Dumbeck et lui a dit « Regarde-moi ça, comment quelque chose de la sorte peut se produire en ma présence ? Mettez-y fin !» Le prisonnier a été appelé par le lieutenant, a été mis à côté du dispositif de transport et a dû transporter deux fois plus de terre. Afin d'aggraver la punition, il a ordonné que chaque fois que la terre était transportée, l'autre prisonnier transportant cette terre avec lui soit relevé. Le prisonnier a fait cela pendant une heure environ et s'est évanoui. Nous avons dû le laisser allongé au sol et nous l'avons ramené au camp le soir.
Qu'est-il arrivé à ce prisonnier, Monsieur Lowenstein ?
Le prisonnier est mort le lendemain.
Si vous voyez Ilse Cor aujourd'hui dans la salle d'audience, vous souviendriez-vous d'elle ?
Bien sûr.
Pouvez-vous la désigner ?
Oui, c'est assez évident. C'est elle, la commandeuse Cor.
Quel numéro porte-t-elle ?
Je ne sais pas.
Pouvez-vous regarder ?
15.
Le capitaine Lewis, défenseur de l'accusé Ilse Cor, souhaite poursuivre avec le témoin.
Est-ce vrai que les prisonniers juifs dans le camp n'avaient pas le droit de travailler dans les installations des SS ?
Ce n'est pas vrai. Nous y avons travaillé des jours durant.
Et c'est aussi vrai que tout le reste que vous avez raconté ?
Oui, j'ai dû moi-même travailler avec mon détachement dans les baraquements des SS, les maisons des chefs SS et d'autres endroits.
Quand cet incident a eu lieu dans la demeure de Madame Cor, l'avez-vous entendu parler à son mari ?
Oui.
A-t-elle dit quelque chose à son mari concernant la nature de la punition qui devait être administrée aux prisonniers ?
Non, pas ça.
A-t-elle dit à son mari de frapper cet homme ?
Non, elle a seulement dit à son mari qu'il devrait veiller à ce que cet homme disparaisse. C'était suffisant à Buchenwald de dire « Je ne veux plus voir cette personne » et la plupart du temps, cela signifiait la mort.
Ce sommaire a-t-il été abattu ?
Non, pas ce jour-là.
Qu'en est-il de l'autre incident pour lequel vous avez témoigné concernant Cor ? A-t-elle dit quoi que ce soit aux gardes concernant la punition qui devait être donnée aux prisonniers ?
Non, mais au lieutenant SS Dumbeck, oui.
Qu'a-t-elle dit à Dumbeck concernant toute raclée à donner à ce prisonnier ?
Elle n'a pas dit au lieutenant Dumbeck qu'il devait battre ce prisonnier.
A-t-elle dit à Dumbeck de donner plus de travail à ce prisonnier ?
Non, elle a dit à Dumbeck qu'elle ne voulait plus voir quelque chose de la sorte se produire et qu'elle ne voulait plus voir cet homme-là. Et après ces mots de Madame Cor, cet homme a été mis à côté du dispositif de transport et elle est restée là un long moment, peut-être 10 minutes, et elle rigolait de la scène.
Et les deux colonels qui étaient avec elle ? Riaient-ils aussi ?
Ils étaient debout à côté d'elle.
Madame Cor a-t-elle suggéré à Dumbeck quelle sorte de punition il devait donner à ce prisonnier ?
Non.
Madame Cor a-t-elle relevé le numéro de ce prisonnier ?
Oui.
L'a-t-elle dénoncé à son mari ?
Je ne peux pas dire, je ne l'ai pas vu.
Mais vous l'avez vu noter le numéro ?
Cela, je l'ai vu, oui.
Et après avoir travaillé une heure, vous avez témoigné que ce prisonnier s'est évanoui ?
Oui.
Et vous avez témoigné qu'il était mort le lendemain ?
Oui. Je ne sais pas s'il est mort le lendemain ou le jour même, mais le lendemain, nous avons reçu le rapport de décès dans notre bloc.
Vous n'êtes pas sûr que cet homme soit mort ?
J'ai dit que nous avions reçu le rapport de décès dans le bloc. Je savais donc qu'il était mort.
Et il est mort à cause de ce travail en plus qu'il a dû faire, n'est-ce pas ?
Certainement.
Avant la guerre, Kurt Sitteux était physicien nucléaire. À Buchenwald, où il a été déporté, il est affecté au service des pathologies du camp. Devant lui, des pièces à conviction, une série de peaux humaines tatouées.
Docteur Sitteux, d'après vous, est-ce que le traitement des peaux humaines tatouées des prisonniers s'est poursuivi dans le département pathologique de Buchenwald ?
Oui, c'est ça.
Auriez-vous l'amabilité de décrire à la cour en quoi consistait cette pratique, ce processus, pendant que vous y travailliez, entre juin 1942 et jusqu'à la fin ?
Pendant le temps où j'ai travaillé dans le département de pathologie, l'ordre était que sur tous les corps sur lesquels il y avait des tatouages colorés ou des tatouages intéressants, devaient être dépouillés de leur peau, et cela se faisait dans le département de pathologie. Et je dois ajouter que les tatouages obscènes étaient considérés comme intéressants.
Pouvez-vous dire à la cour s'il existait dans le camp de Buchenwald des fiches indiquant les noms des prisonniers ainsi que le fait qu'ils avaient ou pas un tatouage sur le corps et la nature de ce tatouage ?
À ma connaissance, ce genre de liste existait à l'hôpital. Une liste de cartes double taille.
Docteur Sitteux, seriez-vous assez aimable pour dire à la cour ce que vous savez du traitement des tatouages pratiqués avant votre arrivée au département de pathologie en juin 1942 ?
Je sais que pendant cette période, les tatouages étaient souvent mal utilisés pour la fabrication d'abat-jour, des étuis à couteau et d'autres objets similaires pour les SS. J'ai vu de mes propres yeux encore un étui à couteau commandé par l'un des gardes SS.
Cupide et avide, Margarete Ilsecoller, alias Ilsecor, porte ses prétentions en bandoulière. Prête à tout, cette fille de paysan va très vite monter en grade.
Ilsecor est une petite employée, sténographe, mais qui assez vite embrasse le parti nazi.
Claude Quettel, historien spécialiste de l'étude des structures et des processus mentaux qui conduisent à la décision ou l'événement.
On a toujours tendance à ne voir que les hommes chez les nazis. Il y avait aussi des femmes. Elle n'était pas destinée à une grande carrière nazie, mais elle va épouser Monsieur Kor, qui va devenir commandant du camp de Buchenwald. Son milieu était modeste, plutôt d'une famille d'ouvriers, enfin quand même d'origine quand même modeste, très modeste. Et on est dans l'ambiance des années 30, et au début des années 30, quand on est jeune et puis qu'on n'est pas communiste, parce que c'est la grande idéologie tout de même en place, eh bien qu'est-ce qu'on est si on veut s'engager, si on est séduit par un programme, des promesses, eh bien on est nazi dans l'Allemagne pré-hitlérienne et même pour ne pas dire ensuite dans l'Allemagne hitlérienne. Et donc cette jeune femme, embrasse le parti nazi, et ce qui va transformer cette femme, c'est de se retrouver d'un seul coup l'épouse d'un commandant de camp de concentration. D'ailleurs, très vite, on va l'appeler la commandeuse. Mais le danger, encore une fois, c'est de faire d'Ilsecor une sorte d'exception. On oublie trop facilement que un demi-million d'Allemandes s'en vont à l'Est pour occuper des postes de secrétaire, d'infirmière, d'enseignante, et pour certaines, être des épouses, tantôt de chefs de camp, tantôt de responsables SS. Et la plupart de ces femmes ont, d'une façon ou d'une autre, tantôt indirectement, plus rarement directement, participé au génocide des Juifs, aux fusillades. Certaines sont même accusées. Après, lorsqu'elles vont être jugées, elles vont dire « Non, pas moi, j'y étais pas, c'est pas vrai. » Mais vont vouloir assister à des exécutions. Quand je dis des exécutions, les exécutions en masse, les malheureux juifs tués d'une balle dans la nuque, précipités dans une fosse commune, elles sont là, et parce qu'elles ont envie, elles demandent à être là. Et ça me paraît assez intéressant. Alors, le problème, c'est que pendant longtemps, on ne les voit pas. Je parle dans l'historiographie. Et puis maintenant, on aurait tendance à ne voir qu'elles. peut-être entre les deux, parce que la légende a vite fait de s'emparer de tout ça.
Elle a fini l'école à 14 ans, 2 ans de formation, donc à 16 ans, elle a dû commencer à travailler.
Benoît Cazenave, historien et économiste, auteur de « La mégère de l'Armageddon ».
On n'arrive pas à savoir si, par exemple, elle a connu des situations de chômage. Son mari, oui. Son futur mari, oui. Elle a changé à 3 ou 4 reprises d'entreprise. Donc, elle rentre dans le parti en 32. Elle rencontre Cor en 34 à Dresde, donc là où elle réside. Il est envoyé dans différents camps pour occuper différentes positions. Et finalement, il est nommé en 35 à Berlin, au camp de concentration de Columbia, qui sera ensuite fermé quand le camp de Sachsenhausen sera ouvert au nord de Berlin. Et donc, elle va le suivre à partir du moment où il se marie, en 36, elle arrête de travailler. Mais on sait qu'elle est pauvre. On sait qu'elle achète ses meubles à crédit. Bon, un signe de pauvreté peut-être. Mais en tout cas, on sait qu'elle achète des vêtements de seconde main. Jusqu'en 38, 39, elle a encore des dettes à rembourser. Et après 39, c'est terminé. La famille est riche. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui est plutôt issu, voilà, qui va réaliser une ambition sociale. Un rêve, quoi, en fait. Voilà, elle vient d'un milieu populaire, d'une classe moyenne inférieure, et puis c'est une ascension sociale.
En décembre 1937, Karl Kor emménage à Buchenwald en compagnie de sa femme, Ilse Kor. Âgée de 31 ans, Ilse est jeune, élégante et surtout très ambitieuse.
Florian Henn, alias Mamie Twink, explorateur, vidéaste et écrivain, est passionné d'histoire. Et c'est sur sa chaîne YouTube qu'il va, avec Julien Aubry, consacrer un film documentaire à Ilse Kor intitulé « L'histoire de l'horrible sorcière nazie du camp de Buchenwald ».
Au départ, c'est une simple membre du parti nazi qui devient l'épouse d'un homme qui veut monter dans la hiérarchie. Et lorsque son mari se retrouve propulsé à la tête du camp de concentration de Buchenwald, il déménage sur place. C'est là où tout commence, elle se marie à lui. Et comme lui est nazi, elle doit même passer des examens pour prouver le fait qu'elle soit arienne et que le mariage soit acté. Et en fait, à partir du moment où elle est mariée à Karl Kor, elle va suivre son mari. En fait, c'était simplement sa femme, elle n'avait aucun rôle dans le camp de concentration. Et pourtant, elle a participé à des sévices et c'est ce pourquoi elle a été arrêtée puis jugée.
Les camps de concentration, que ce soit à Ravensbrück, à Auschwitz ou d'autres, c'est des univers qui ont été prévus aussi pour accueillir les surveillants, les gardiens, les commandants, avec leurs familles.
Barbara Netschek est journaliste, réalisatrice et autrice en 2022 d'un ouvrage intitulé « Femmes bourreaux ».
Et donc on a construit de véritables lotissements. Il y en a où il y a des magasins, il y a des piscines, il y a des parcs, ce genre de choses, bien sûr un peu à l'écart du camp lui-même, du camp des prisonniers. Mais l'ESS, avec sa famille, avait sa place. Et les femmes, les épouses SS, c'est ça qui est intéressant aussi, elles n'ont pas de fonction officielle dans le système. Elles sont là, on les incite à suivre leur mari sur leur lieu de travail pour justement offrir à ces hommes une vie de famille normale, pour que lui, il ait l'impression d'aller au travail comme s'il allait au bureau, même s'il tue des gens, même s'il rentre avec des bottes en sang, voilà. Mais il retrouve sa famille, ses enfants, et il peut vivre des sentiments qu'il est évidemment obligé de nier ou de supprimer complètement pendant son travail. Et ces femmes-là savent très bien ce que leurs hommes font dans la journée. Elles sont triées sur le volet, même avant le mariage. Elles devaient évidemment passer des tests pour montrer que c'était une bonne merde. Elles devaient aussi passer des tests de fertilité. Et après, ces dossiers, ça pouvait aller jusqu'à 150 documents dans certains cas. Ces dossiers, donc constitués de documents qui concernaient les hommes et les femmes, étaient envoyés à Heinrich Himmler, qui lui, en personne, approuvait ces mariages ou pas. Donc ces femmes étaient... Oui, idéologiquement attestées, elles approuvaient ce que faisaient leurs hommes, elles savaient ce que faisaient leurs hommes, et elles en ont profité aussi de ce système, parce qu'elles se sont enrichies grâce aux biens volés des déportés juifs et d'autres. Elles se servaient allègrement, que ce soit des vêtements, des meubles, de la nourriture, pour elles-mêmes, pour se faire une belle vie dans les camps, mais aussi pour les envoyer au Reich, pendant la guerre, où il y avait déjà une pénurie en Allemagne. Et elles sont coupables aussi. Elles sont coupables d'avoir soutenu leur mari. Elles sont coupables de s'être enrichies. Mais Très peu d'entre elles ont répondu devant la justice de leurs crimes. Très peu d'entre elles ont même été considérées coupables. Ils écorcent, c'est vraiment l'exemple qui confirme la règle.
Et là où l'histoire est tout de suite fascinante dès le départ, c'est qu'ils se font construire une villa, non loin du camp, pour y vivre.
Florian N.
Une villa fastueuse avec un très beau mobilier, un très bel intérieur. Ils ont même une voiture décapotable.
Il faut savoir que quand les Américains ont libéré le camp de Buchenwald, ils ont récupéré des albums photos qui appartenaient à la famille Korch.
Julien Aubry.
Ils ont scanné ça, c'est scanné en très très haute qualité. Et donc on peut parcourir cet album comme si on l'avait entre les mains. Et c'est quelque chose d'assez marquant parce que finalement, on a ce parallèle qui est très déstabilisant entre l'horrible sorcière qui est décrite du camp de Buchenwald et les photos de son album où elle est avec ses enfants, ils reçoivent des amis, ils jouent au bord de l'eau, ils se promènent devant le camp comme une sorte de mère modèle, une mère aimante. C'est-à-dire que dans leur vie personnelle, ils faisaient tout pour que ce soit normal et en fait, ils commettaient des atrocités et des crimes qui étaient inhumains. Mais quand on parcourt ces albums photos, voilà, on a l'impression que c'est un papa, une maman, des enfants, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, entre guillemets.
On a énormément de photos d'elle, d'autant plus que ce sont des albums qu'elle a elle-même annotés. Donc on a là trois photos avec Ilse Korch, son mari et son fils, devant des baraquements, avec en légende, écrit « Un dimanche matin, dans le camp, 7 avril 1940 ». Comme si votre mère vous avait confectionné un album photo pour remémorer les bons souvenirs de famille. Sauf que là, c'est dans le camp de concentration. Enfin, c'est complètement fou, c'est ahurissant. Là, c'est son anniversaire, le 17 janvier 1941. On la voit jouer dans la neige avec ses enfants. Faut savoir que cet album, elle l'a fait pour l'offrir à ses enfants quand ils seraient plus grands, pour avoir des souvenirs de leur enfance. Des souvenirs de leur enfance dans le camp, d'ailleurs. Là, c'est écrit « Avec ma maman » en mai 1938. Donc, c'est Ilse qui écrit à son enfant « Avec ma maman ». Voilà, juillet 1939, une journée chaude à Buchenwald, où on voit son enfant nu sur une couverture dans l'herbe devant la villa. Voilà, là, on a Pâques. Et avec une photo assez édifiante d'un SS qui tient un lapin blanc devant l'enfant d'Ilse Korch. Ça a l'air d'être vraisemblablement dans l'enceinte du camp, puisqu'on voit un baraquement derrière. On pourrait avoir le même genre de photo dans nos propres albums de famille, sauf que là, c'est dans un camp de concentration.
Elle s'est trouvée projetée
Claude Quettel
sur la scène de l'histoire, parce que son foutu mari a été exécuté par les SS eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il menait une joyeuse vie de pillard. Alors, au point que ça a fini par mécontenter, ce qui peut paraître tout de même assez paradoxal, le commandement SS, mais pas au nom d'une sorte de morale, hein, mais parce que c'était pour eux tous ces biens des détenus politiques et juifs, et notamment et surtout juifs, ils étaient les plus nombreux, c'était pour le trésor, pour le fonctionnement de la SS, c'était pas pour le fonctionnement de monsieur et madame Korch. Donc il est condamné à mort, mais enfin bon, il est exécuté par un peloton d'exécution SS quelques semaines avant la libération du camp. Alors du coup, toute la tension médiatique de l'époque, mais enfin, judiciaire, va se reporter sur la fameuse Ilse.
In Dachau wurde im Verlauf des Prozesses gegen das Personal des Konzentrationslagers Buchenwald die Angeklagte Ilse Korch vernommen. Die Frau des früheren Lagerkommandanten und sogenannte Kommandeuse von Buchenwald ist die einzige Frau unter den 31 Angeklagten. Die Anklage wirft ihr schwerste Vergehen gegen
Ilse Korch, son surnom, la chienne de Buchenwald. La raison première de sa diabolisation, ça a été la façon dont a été effectuée la libération ou l'ouverture du camp de Buchenwald.
Anna Diviorca.
C'est une médiatisation immense. Toutes les équipes des actualités filmées sont là pour voir les cadavres. Eisenhower et le général Patton sont présents. J'ai mis au jour le fait qu'il y avait un certain nombre de journalistes, notamment de l'AFP à Buchenwald, et qu'il y a eu un bureau de presse à Buchenwald, fait par les journalistes détenus, qui ont organisé la visite. C'était une sorte de tourisme de l'horreur, avec des passages obligés, notamment les restes dans le crématoire, la photo de ces cadavres ambulants, et puis ce qui attestait le sadisme extrême des nazis, puisqu'à l'époque, c'était ça qui était dominant, ils étaient des sadiques, les abat-jours faits en peau tatouée de détenus. Et il se disait que c'était Ilskor, l'épouse du premier commandant du camp, qui les collectionnait. C'est évident que le fait qu'elle ait été une femme a contribué à cette espèce de portrait de sorcière diabolique, quelque chose de... Oui, de monstrueux, c'est, on en a fait un monstre.
Une femme dont on a fait un monstre, nous dit l'historienne Annette Vivurka, spécialiste de la Shoah. L'arbre qu'on doit couper pour préserver toute la forêt, comme l'explique Claude Quettel, historien, spécialiste de l'étude des structures et des processus mentaux qui conduisent à la décision ou l'événement.
La libération venue, dans l'urgence même, enfin, en tous les cas, il est évident qu'il va falloir juger les nazis. Mais combien de nazis est-ce qu'on va juger ? La moitié de la population allemande ? Dans toute civilisation digne de ce nom, il ne peut pas y avoir de jugement collectif. On ne peut pas juger collectivement un peuple. Et donc, il faut individualiser. Ne serait-ce que pour avoir devant soi quelqu'un avec un nom, un prénom. Il y a eu des dizaines de femmes, d'épouses, de camps de concentration. Donc on va juger celles qui sont en quelque sorte déjà célèbres. Et Ilskor s'est rendue célèbre. D'abord parce qu'elle est constamment dans le camp, elle assiste aux exécutions, elle désigne même des déportés qui ne lui plaisent pas ou qui l'ont regardé. Alors, c'est là qu'il faut faire attention, qui l'ont regardé de travers ou qui l'ont simplement regardé. Alors, très vite, l'accusation dit « vous, on n'avait pas le droit de vous regarder ». Et puis, très vite... On dit, ah oui, et puis vous faisiez collection de peau humaine tatouée. Vous aviez même un abat-jour en peau humaine. Mais où est-ce que la vérité dans tout ça? Alors, en ce qui concerne Ilskor, qu'elle soit gravement coupable, ça va sans dire. Mais l'accusation va assez vite faire un sort aux histoires de peau humaine. Les photos, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Et donc, qu'est-ce qu'on expose au procès de Dachau? Trois peaux humaines tatouées et un abat-jour qui, probablement aujourd'hui, était en fait un abat-jour en peau de chèvre. Quant aux peaux tatouées, on connaît aujourd'hui suffisamment l'histoire des médecins SS pour savoir qu'une peau tatouée sur un cadavre pouvait les intéresser. De là à aller chercher ceux qui sont tatoués pour dire « zigouillez-moi celui-là parce que je veux sa peau », donc là, l'accusation a assez rapidement abandonné tout ça. Sauf que c'est ce que l'histoire a retenu.
L'histoire avec un grand H, mais également la presse internationale qui, article après article, photo après photo, vont faire d'Ilskor bien plus qu'un monstre. Elle va devenir un véritable mythe, l'incarnation féminine de l'horreur nazie, la femme du boucher-corps, sadique et fétichiste. Celle que les journalistes présents en masse ont appelée la Bitch of Buchenwald, l'accusée numéro 15, doit être jugée. Mais comment, tant les témoignages semblent incertains, parfois hasardeux? Julien Aubré, passionné d'histoire et cofondateur de la chaîne YouTube Mabi Twink, productrice d'un film consacré à Ilskor.
Concrètement, en gros, après la guerre, en 1947, elle est jugée avec les autres responsables du camp de Buchenwald. Donc elle est jugée à Dachau, qui est un des premiers camps de concentration du Troisième Reich. Et il y a une symbolique assez forte à ce jugement, puisque on est à l'époque où il faut juger les criminels nazis. Et aussi, il y a cette volonté pour les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, pour les alliés, de passer à autre chose.
Lors du procès, vont témoigner de nombreuses personnes. On va même amener des preuves, des pièces à conviction, notamment une collection de têtes réduites de prisonniers, des organes dans du formol, et aussi une fameuse lampe dont l'abat-jour serait faite en peau humaine, prélevée d'un détenu du camp de Buchenwald. Donc on a toute cette collection horrible. Et là, on raconte plein de choses sur cette femme. Alors, des choses vraies, comme son comportement sadique, comme quoi elle venait provoquer les détenus pour ensuite les faire punir, le fait qu'elle prenait des bains de soleil en tenue légère pour attirer leur regard, sa cruauté. Et puis, il y a un doute.
Well, it appears that the legend likely stemmed from the fact, firstly, that there is...
Il me semble que la légende existe avant tout parce qu'il y a eu de vrais crimes. Des expérimentations ont eu lieu dans le centre pathologique des camps, comme par exemple le fait de prélever des parties de peau tatouées des prisonniers.
Thomas Jardim, historien à l'Université de Toronto, auteur en 2023 de « Le procès de l'île de Cor ».
Un des prisonniers qui travaillait dans le centre de pathologie témoigne et précise que les corps n'étaient pas sélectionnés vivants puis tués pour en récupérer la peau, mais qu'ils choisissaient parmi les cadavres les peaux à conserver. Ah, c'était de toute façon une horrible pratique. La présence d'Ilse Koch, parce qu'elle était une femme, a marqué les esprits et toutes sortes d'histoires à son propos se propageaient rapidement au sein des camps. D'après ce que l'on raconte, elle se promenait à cheval dans les camps pendant que les prisonniers travaillaient. Et certains d'entre eux ont affirmé que les SS venaient les battre après s'être entretenus avec elle. Néanmoins, l'usage de la violence étant une pratique habituelle, ces gardes SS n'agissaient pas forcément sous ses ordres. Je dirais que le mythe émergeait à la fois de la rumeur et des façons dont les informations se propageaient au sein des camps. Il y a un fond de vérité, tel que l'existence de ces peaux tatouées conservées dans le département de pathologie, et puis aussi cette histoire de femme à cheval. Ilse Koch est sûrement la seule femme du camp, qui plus est, elle est la femme du commandant. Sa présence marque les esprits. Et c'est ainsi qu'à travers le temps, ces deux faits se confondant, Ilse Koch a été associée à la conservation des peaux tatouées.
Abba Prayer est né en 1923 en Pologne. En 1943, il arrive à Buchenwald.
Je pense qu'elle travaillait là quand je suis arrivé. Elle aime la peau humaine. Elle faisait des abat-jours en peau humaine. Tout le monde le savait. Les gens essayaient même de ne pas être beaux, car s'ils l'étaient, ils risquaient d'être sélectionnés par Ilse pour en récupérer leur peau et en faire des abat-jours. C'est vrai.
L'histoire des abat-jours et des tatouages reste complexe.
Thomas Jardim.
Nous savons que des morceaux de peau tatouée ont été retrouvés à Buchenwald. Donc, ces crimes ont réellement eu lieu. Mais rien ne laisse penser qu'Ilse Koch y a participé.
Erich Wagner, who worked at Buchenwald, who while he was there wrote a PhD dissertation,
which was actually un docteur SS qui travaillait à Buchenwald dans le centre de pathologie, a écrit sa thèse approuvée par l'université de Jena intitulée sur la question du tatouage et de la criminalité, à partir d'une pseudo-science bancale empreinte de l'idéologie nazie, Wagner tente d'établir un lien de causalité entre la tendance des individus à se faire tatouer et une supposée criminalité innée.
And so a number of people testified that worked in the pathology department where these skins were kept.
De nombreux témoins qui travaillaient au centre de pathologie ont affirmé avoir vu Eric Wagner collecter des échantillons de peau dans le cadre de ses recherches pour documenter sa thèse.
Of testimony with regards to the human skin lampshades and human skin bookbindings and things. We have a number.
En somme, il existe deux types de témoignages sur cette histoire de la conservation de peau tatouée. D'une part, il y a les prisonniers qui affirment avoir vu ces échantillons. Mais lorsque le procureur leur a demandé si Ilse Koch était impliquée, ils ont répondu que, d'après la rumeur, des objets en peau humaine étaient fabriqués pour elle. Et d'autre part,
Certains témoins affirment avoir reçu l'ordre de collecter ces échantillons pour Eric Wagner dans le cadre de sa thèse.
William Dawson, procureur au procès d'Ilse Corps en 1947.
La crédibilité des témoignages était primordiale puisqu'il fallait convaincre la Cour de la véracité de situations et de crimes inédits. Mon plus grand problème pour instruire ces cas, c'était de croire ou d'avoir des témoignages crédibles à cause de leur nature. Non que ce n'était pas vrai, c'était vrai. Mais leur description était si horrible, si sadique, si monstrueuse, qu'ils étaient incroyables.
Elle est jugée en 1947, elle est condamnée à la prison à perpétuité. Ensuite, il y a sa peine qui est commuée. Donc en fait, elle passe de perpétuité à seulement 4 ans de détention. Et les Américains se justifient en disant que voilà, ils ont été victimes de propagande et de suggestions de masse. Ils reviennent un petit peu sur ce qu'ils ont dit sur l'histoire de l'abat-jour, sur l'histoire des peaux humaines tatouées. Mais malgré tout, en fait, la réduction de sa peine provoque une vague d'indignation.
Ilse Corps ne semble pas faillir à sa réputation. Enceinte d'un enfant qu'elle a eu avec son gardien de prison, elle échappe à la peine capitale, droit américain oblige. Et comme l'explique Thomas Jardim, l'affaire Ilse Corps commence à agiter les opinions publiques.
And so there's an explosion of public outcry in the United States. I mean, really big. It's hard to imagine at this point in time, but there was protests on the street.
Le public était horrifié aux États-Unis. La réaction a été énorme. C'est très difficile de l'imaginer, mais à l'époque, il y avait des manifestations dans les rues. Woody Guthrie a écrit une chanson folk de protest song titrée « Ilse Corps » relatant cette immense injustice. Et en fait, la controverse a été si explosive que c'est monté jusqu'au bureau du président Truman. Grâce en partie à son intervention, le Sénat américain a décidé d'organiser des audiences autour de cette controverse afin d'établir ce qui n'avait pas fonctionné et pourquoi Corps avait été relaxé de leur point de vue. Et il fallait trouver une solution afin qu'elle soit emprisonnée à nouveau. Ils ont donc décidé de se reposer sur le gouvernement de la toute nouvelle Allemagne fédérale en déclarant que vous voulez prouver vos principes démocratiques, vous voulez prouver la légitimité de votre système judiciaire, vous avez ouvert une enquête sur Ilse Corps. Vous êtes ceux qui l'arrêtent le jour où elle sort de la prison américaine et vous la mettez en examen. Mais cette fois-ci, pour des crimes perpétrés contre des citoyens allemands, ce qui permettra de ne pas faire de double accusation.
À Augsbourg, un tribunal allemand vient d'ouvrir le troisième procès d'Ilse Corps, femme du chef de camp de Buchenwald. Acquittée par un tribunal SS en 1944 sur accusation de vol, condamnée à 4 ans de prison par un tribunal américain pour crime contre l'humanité, Ilse Corps doit répondre aujourd'hui de l'assassinat de plus de 100 Allemands internés à Buchenwald. On déplore, devant les charges qui pèsent sur l'accusé, que la nouvelle loi allemande ait supprimé la peine de mort.
Lorsque le verdict est prononcé en janvier 1951, elle est condamnée à la prison à vie pour dénonciation et incitation au meurtre sur 135 prisonniers allemands. Le 1er septembre 1967, elle se suicide par pendaison dans sa cellule de sa prison bavaroise pour femmes. Un mythe vient de naître.
Je n'avais pas l'intention de prendre la barre des témoins de nouveau, mais maintenant que la cour m'a déclaré coupable, je crois qu'il est de mon devoir de mentionner de nouveau les points suivants.
Ilse Corps.
Après avoir témoigné le 10 juillet et clarifié tout ce qui devait être clarifié, à savoir la vérité, un article publié dans Newsweek vers la fin juillet a clairement établi que mes documents sont en possession du gouvernement militaire. Dans les albums dont je parle, Les photos de ma maison ont été collées à plusieurs dates différentes. C'était de grandes photos, de 18 sur 24 cm. Je pense qu'il serait chose facile de déterminer à partir de ces photos en quoi étaient faits ces abat-jours. Et puisque ces photos sont privées, celles publiées dans Newsweek, je sais qu'ils ont tous les albums. Il serait donc facile de déterminer si le témoin Frobos a dit la vérité sur la reliure de ces derniers. Ils n'ont pas été liés avec de la peau humaine, mais avec du cuir foncé. Mes témoins de la Défense ont toujours témoigné dans ce sens. Ensuite, je dois particulièrement faire une déclaration sur ces parties de l'article qui réfèrent à ma vie privée, parce qu'il n'est pas seulement question de moi, mais aussi de mes enfants. Je ne sais pas de qui ce reporter a reçu ces informations. À aucun moment il ne les a eues de moi. J'ai refusé de donner des informations sur ma vie privée à l'officier américain. Il dit, parmi d'autres choses, que j'ai admis. Ce n'est pas ma façon de parler, d'utiliser ce genre de mots. Je peux aussi prouver facilement que ceci est le mensonge le plus vulgaire que j'ai jamais lu me concernant dans un journal. Quant aux autres charges, je crois que j'ai oublié la chose suivante quand j'étais à la barre des témoins. J'ai été emprisonnée pendant 16 mois quand il y a eu un procès contre mon mari. J'ai été acquittée. À ce moment-là, tous les prisonniers ont eu l'opportunité d'exercer des accusations à mon encontre. Ils auraient pu le faire si j'avais battu quelqu'un ou si j'avais, pour quelque raison que ce soit, dénoncé quelqu'un pour qu'il soit puni. Ça n'est pas arrivé. Et ce n'est pas vrai, comme a essayé de le montrer M. Denson lors de mon contre-interrogatoire, que les prisonniers auraient été punis pour de tels témoignages. Il a été prouvé par un témoin que des prisonniers ont été libérés parce qu'ils ont témoigné contre moi et mon mari. Concernant de nouveau cet article, je voudrais dire que ma position a toujours été de parler sans insulte au cours de ma vie. J'ai toujours fait mon devoir dans mon travail professionnel et je n'ai jamais rien fait d'irresponsable ou de mauvais en tant que femme ou mère. Et j'aimerais dire en conclusion que ce n'est pas seulement moi qui suis le sujet ici, mais aussi mes enfants, qui ont déjà énormément souffert à travers cette scandaleuse propagande. J'étais une femme au foyer et une mère pour mes enfants. Je n'avais rien à voir avec les camps de concentration, et mon mari ne m'en a jamais parlé. Et je n'ai jamais vu ou entendu parler de tout ce qui a été discuté ici.
Se donnant la mort par pendaison dans sa cellule de la prison bavaroise pour femmes de Eschach, le 1er septembre 1967, Ilse Kor ne se doutait pas que la nouvelle culture du début des années 70 allait s'emparer de son personnage pour en faire un archétype.
Les crimes dont elle est accusée sont expressément sexualisés par le procureur et les remarques sont reprises par les médias, avides d'histoires sensationnelles.
Thomas Jardim, historien à l'Université de Toronto, auteur en 2023 de « Le procès d'Ilse Kor ».
So at her trial at Dachau, at her trial in Germany, the prosecution goes to great lengths to talk about the nature of her sex life and they detail her sexual exploits.
Ainsi, pendant son procès en Allemagne, l'accusation se donne du mal pour étaler sa vie sexuelle, détailler ses exploits et ses relations en s'appuyant sur des témoignages à propos de ce qu'elle avait l'habitude de porter. Il y a une réelle intention de sexualiser les crimes effectués, ce qui alimente la légende autour d'Ilse Kor. Les gens deviennent à la fois fascinés par elle et révulsé par ses crimes.
Sort of a puritanical America in the post-war years. This kind of hidden fascination also too with these images of sexual domination.
De plus, dans le contexte de l'après-guerre, dans cette Amérique puritaine, Il y a une sorte de fascination honteuse pour ces images de domination sexuelle et de perversion. Une fascination qui, une fois de plus, alimente le mythe d'Ilse Kor. Un mythe qui se nourrit de l'indignation et du dégoût de la population. En revanche, personne ne s'interroge sur le fait que la presse commente la tenue d'Ilse Kor pendant son procès, se soucie des proportions de son derrière ou de sa poitrine.
You know, Newsweek published a spread about her trial in 1947 that shows on one half of the page concentration camp.
Les articles se concentrent constamment sur son apparence. Par exemple, Newsweek a publié un article sur son procès en 1947. D'un côté de la page, il y avait une photo de prisonnier émacié, une image atroce. Et de l'autre, un portrait d'Ilse Kor en maillot de bain. C'est l'image parfaite pour rendre compte de la fétichisation et la sexualisation de la domination que pouvait incarner la figure d'Ilse Kor. Surtout que l'histoire d'Ilse Kor est devenue connue grâce à un film pornographique, Ilse Kor, la louve des SS. Le film est passé à l'époque dans plus de 45 cinémas aux États-Unis et a donné lieu à 3 suites.
1945, somewhere inside Nazi Germany. This is Medical Camp 9. For these women, there is no hope, no escape. For them, there is only pain. And Ilse, she-wolf of the SS.
C'est un mythe. Quasiment du début de son entrée dans l'âge adulte jusqu'à la fin.
Liliane Candel, sociologue et essayiste féministe.
Alors, c'est une femme libre sexuellement, elle et son mari. Et manifestement, l'adultère ne leur fait pas peur. Donc déjà, elle était un peu déviante par rapport à l'image de la bonne femme nazie. Elle avait cette réputation d'avoir une vie sexuelle débridée, y compris avec des surveillants de bloc ou des détenus. Elle est cruelle, sadique même. C'est le diable en personne. Il y a un mythe, Ilse Kor, dont des recherches ultérieures ont montré qu'il reposait en partie sur des fantasmes. Et il y a une réalité, Ilse Kor, d'une femme qui probablement avait quelques dispositions à sadiser autrui, à s'enrichir sur le compte d'autrui, éventuellement à mentir, à leurrer ou à tuer des gens. Il y a eu une série de films, le show à porn, ça s'appelait, je crois, que je n'ai pas eu envie de voir, qui, en effet, jouait sur la double attraction-répulsion de la période des camps et des orgies sexuelles.
Le grand public adore. Voyez les films porno nazis. Les nazis porn.
Claude Kettel.
Il y a eu un grand public dans les années 70. Parce que Ilse Kor est devenue aussi, dans le mythe, elle devient la louve qui fait son choix parmi les hommes. Enfin, donc le nazi porno, qui est une véritable... D'abord qui est grotesque, et puis qui ensuite, selon moi, est une honte, a eu un énorme succès. Donc tous ces mythes-là, alors pour qu'il y ait mythe, il faut qu'il y ait quand même un succès, sinon c'est pas un mythe. Donc tous ces mythes-là sont, selon moi, très très dangereux. Mais encore une fois, Ilse Kor n'a pas été condamnée à mort et n'a pas été pendue, alors que beaucoup de nazis femmes, à commencer par des gardiennes de camps de concentration, l'ont été.
She-Wolf of the SS.
It's 50 minutes now, mein Kommandant.
Together with her black widows, she committed crimes so terrible even the SS feared her.
There's but one way. My blood to flesh. Do you understand?
Clovis Gou, journaliste indépendant, cofondateur du label Dirty.
C'est l'inspiration du film de Nazi Exploitation qui est le plus connu, qui est Ilse, la louve des SS.
Et c'est vraiment, c'est tous les stéréotypes qu'on a évoqués, c'est-à-dire la matrone hypersexuée, sadique évidemment, qui jouit de la souffrance humaine. Et voilà, c'est un monde totalement décadent qu'on nous montre. Et donc avec, il se coche comme un des modèles. Voilà, la femme sadique du camp de concentration. Mais c'est toujours, on est toujours dans le grotesque et dans la caricature. Hein. Il n'y a rien d'historique là-dedans. Je pense que personne n'est dupe. La femme est associée à une sexualité débridée. Elle a tout l'état. Hein. Elle est nymphomane, sadique, masochiste, etc. Elle a toute la panoplie du mal. Mais ce qui est paradoxal, c'est que Ilsa, la louve des SS, a été vue dans les années 70 comme une icône du féminisme, parce que elle dominait les hommes, elle en faisait ce qu'elle voulait, et c'était une femme de pouvoir en fait, parce qu'en plus elle fait des recherches pour montrer que les femmes dans le film sont plus aptes à surmonter la douleur que les hommes, et donc elle fait des expériences sur les femmes pour démontrer cette théorie.
Toutes ces histoires là de peau humaine, de d'abat-jour, qui ont été pratiquement ruinés.
Claude Quettel.
En ce qui concerne Ilse Corps, on n'a pas l'éternelle histoire du savon. Mais on a ailleurs ces histoires de savon en graisse humaine, alors en graisse de juif, hein, c'est encore pire, ça, et qui ont été ruinés. Il n'y a pas eu l'histoire des savons. N'a pas. Alors, il y a eu peut-être quelques recherches parce que les cinglés de SS, médecins de service, ont forcément fait deux ou trois recherches dans cette direction-là, mais ça n'a pas fonctionné, ça n'a jamais marché, et ça a eu la vie dure. D'ailleurs, on disait à quelqu'un, toi, tu vas être transformé en savon. C'était continu. Hein. Donc, moi, je pense que toutes ces légendes, tout ce mythe, et qui encore une fois ne diminue en rien la culpabilité d'Ilse Corps, hein, à mon avis, sont dangereux, sont très dangereux, parce que d'une certaine façon, alors est-ce qu'ils ont été répandus dans cette perspective-là, attention hein, au complotisme, encore que les complots existent, hein, ça sert le négationnisme. C'est là qu'est le problème, et qui est selon moi un problème très 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 dangereux, très préoccupant, parce que à force de raconter des histoires de loups-garous qui finalement apparaissent surtout dans les études actuelles, qui ne sont pas si anciennes, hein, comme des légendes, comme un mythe. On sert le négationniste qui va dire, ah ben vous voyez, il n'y a pas eu d'abat-jour à peau humaine, mais il n'y a pas eu de chambre à gaz non plus.
C'était Ilse Corps, la chaîne de Buchenwald, avec Claude Quettel, Thomas Jardim, Viviane Candel, Clovis Gou, Julien Aubré, Florian N., Annette Vivorka, Barbara Netchek et Benoît Cazenave. Merci à celle qui m'a inspiré cette série, Merima Hussein-Bazic, rescapée de la guerre en Bosnie, spécialiste des crises et des conflits à Sciences Po, et ancienne du TPY et d'Interpol pour ses traductions, ses recherches et ses contacts. Réalisation Rafik Zénine, avec les voix de Anne de Peufeuillou, Thierry Beauchamp, Benjamin Hu, Raphaël Kraft, Antoine Beauchamp, Mathieu Laurent, Jérôme Moreau-Marron, coordination Christine Bernard, attaché de production Sylvia Favre, une histoire particulière d'Alain Lefkovitch avec l'aide précieuse d'Idiana Burkel et de Pascaline Bonnet.